premier lit de mort. J'avais 5 ans à peine quand je perdis mon oncle Émile. Chacun de nous a, dans ses lointains souvenirs, quelque deuil tout pareil au mien, et ce que je vais narrer paraîtra banal, sans doute, à maint lecteur. Mais c'est justement la banalité de tels événements qui les rend si tragiques. Faut-il que nous soyons malheureux pour que l'odieuse vue de la mort ne nous étonne plus? Je le vois encore, mon oncle Émile, je le verrai toujours, grand, maigre, légèrement voûté, bien qu'il n'eût pas 25 ans, ses grands yeux brillant d'un feu étrange et doux. Nous nous aimions beaucoup. Ensemble, nous allions courir au bord de la rivière, cette belle rivière transparente où foisonnaient les poissons argentés. Il pêchait patiemment, et patiemment je le regardais, fier de ses prises comme si elles eussent été les miennes. Ou encore, nous allions par les collines boisées à la recherche des nids, car j'ai le regret de dire qu'à cette époque déjà lointaine, on se préoccupait peu de la conservation des espèces ailées, et les dénicheurs d'oiseaux ne croyaient pas mal faire. Mon oncle tomba malade. Adieu les courses à la montagne, adieu nos flâneries le long de la rivière. Le rude automne secouait de ses vents froids les grands arbres dénudés et venait gémir jusque dans la maison par les larges cheminées. On eût dit que du même coup il avait terrassé mon pauvre oncle, que la toux secouait, sifflante et caverneuse. Il restait de longues heures près du feu, sans parler, seulement il me prenait sur ses genoux et me regardait de ses yeux plus brillants que jamais. Quand il allait mieux, il me racontait de sa voix devenue rauque quelque belle histoire de la Bible qu'il terminait en me chantant tout bas son chant favori, ce doux cantique morave, maître des bonheurs, qui porta mes mots, je fus ton salaire pour tous tes travaux. Car il aimait Jésus, mon oncle Émile, et me parlait souvent du ciel où il allait. Un jour, de grands cris retentirent dans sa chambre. Je voulus y courir, on me retint, et je ne pus y entrer que lorsque, à ces cris poussés par ma pauvre grand-mère, un grand calme eut succédé. Dès le seuil, je fus saisi par ce calme solennel et sinistre. Ma grand-mère, à genoux, dans sa robe noire, mon grand-père, immobile au pied du lit, et sur ce lit, mon oncle, mon cher oncle Émile. Mais était-ce bien lui? Ses yeux fermés, son pâle sourire figé autour des lèvres, aux commissures quelques gouttes de sang. Il était là, rigide, effrayant. Je n'osais m'approcher. « Ton oncle est mort, me dit-on. Tu peux l'embrasser encore une fois si tu veux. » « Mort? Qu'est-ce que cela signifie ? » me demandai-je. On m'avait dit que la mort c'était l'entrée au ciel, et je l'avais toujours imaginée lumineuse et charmante. Mais ceci, ma pensée d'enfant évoqua tout aussitôt l'image d'une scène à laquelle j'avais parfois assisté. Le boucher du village tuant un mouton dans sa cour, et je vis tout de suite qu'on avait tué mon oncle Émile, comme un pauvre petit agneau. Mais qui donc l'a tué ? Et je regardais autour de la chambre comme pour chercher l'invisible auteur de ce meurtre. Invinciblement, l'idée de violence s'était emparée de moi. Je ne pouvais croire, hélas, qu'on mourût tout seul. Je ne le crois pas encore aujourd'hui. J'ai vu depuis bien des lits funèbres, j'ai assisté à bien des funérailles, mais toujours que ce fût un enfant, une femme, un vieillard que j'eusse sous les yeux, toujours j'ai eu dans l'esprit la vision d'un assassin insaisissable, et contre lui, je me sens une révolte féroce, une âme de révolutionnaire qui jamais ne prendra son parti de ce crime si souvent répété. 2 jours plus tard, nous montâmes au cimetière, moi trottinant aux côtés de mon grand-père qui avançait secoué par les sanglots. Je sens encore sa large main qui tenait la mienne agitée par des mouvements convulsifs. Je ne pleurais pas. Je réfléchissais, marchant comme dans un abîme de ténèbres qui se serait soudainement ouvert devant moi. On essaya de m'expliquer que la mort venait du bon Dieu. Je ne le crus pas, je ne le croirai jamais. Dieu, le Père céleste, l'auteur de toute vie. Ah non, j'aime mieux croire à l'assassin mystérieux. Ce meurtrier, j'ai appris son nom depuis lors, et je le hais d'une parfaite haine. Aucun bonheur n'est possible sur terre tant qu'il ne sera pas arrêté. Contre lui devrait se former la ligue universelle de ceux qui veulent vivre. Et rien ne m'a paru plus triste, en avançant dans le monde, que l'abdication des hommes devant leur ennemi. ni les fausses religions et leurs rites si vides, ni les religions et ces stupides plaisanteries, ni les philosophes, ni les savants, ni même les anarchistes ne semblent voir que la clé du bonheur est là, détruire l'assassin. Ils ne le proposent même pas, ils n'ont pas l'air de se douter que ce soit possible, et pourtant, hors de là, je vous le demande, qu'est-ce que la vie ? Et à quoi bon se passionner pour le progrès, pour la justice, pour des idées, puisque tout à l'heure, il nous faudra aussi râler, mourir et descendre dans une fosse, accompagnés par les larmes impuissantes de nos bien-aimés. Et voilà pourquoi je suis chrétien, dans le seul sens où ce mot doit être pris, disciple de Jésus-Christ. C'est que lui est le seul qui ait osé me promettre ce que réclamait mon âme d'enfant, scandalisée par la monstruosité d'un attentat irréparable, et ce que réclame plus ardemment encore mon âme d'homme éprise d'immortalité. Lui seul, dis-je, a osé me promettre qu'un jour, bientôt, la mort ne serait plus. Ah, pour cette espérance que Jésus-Christ soit béni, même si elle n'était que douteuse, car c'est déjà quelque chose que d'espérer. Mais j'ai appris de sources certaines que la promesse du Christ s'est déjà réalisée, au moins en partie. L'ennemi, l'assassin, c'est le péché personnifié dans un être immonde que Dieu tolère pour l'épreuve nécessaire de notre liberté. Cet être, c'est le diable auquel ne croient plus ceux qui sont ses victimes, triomphe de son habileté. Et ce meurtrier, auteur de tous les crimes, Jésus-Christ l'a vaincu. Sur la croix, il l'a écrasé. Cette victoire est apparue à l'aube du premier dimanche. Le corps de Jésus, non son esprit seulement, ce serait une revanche insuffisante, mais son corps qu'on avait ôté, exsangue de la croix, ce cœur qui avait cessé de battre, ses membres percés par les clous, ce corps est sorti vivant du tombeau, on l'a vu. Beaucoup de gens qui n'y voulaient pas croire l'ont touché, pressé dans leurs bras. Il est resté 40 jours encore au milieu de ses amis. Et ceux-ci, lui parti pour revenir bientôt, ont porté la bonne nouvelle à travers le monde, mourant joyeusement sur les échafauds, les potences et les bûchers, pour affirmer que Jésus-Christ a vaincu la mort. Vous tous, qui portez au cimetière des fleurs et des couronnes qui se flétrissent sous vos pleurs, levez la tête. Je ne vous invite pas à la résignation fataliste, mais à la sainte révolte. Ne prenez pas votre parti de la mort, n'abdiquez pas devant elle, ne dites pas « c'est l'irréparable, l'inévitable, l'ultime défaite qu'il faut accepter ». Non, non, dites « c'est un crime, mais la justice vient ». Il vient, celui qui tirera tous les morts de leur sépulcre, abolira les cimetières et vengera la race humaine. Ah, pour que nos corps ressuscitent en gloire et pour que nous connaissions enfin la vie dont nous n'avons ici-bas qu'une ironique image. Donne-nous, ô Christ, dès maintenant la victoire sur le péché.